Que se passe-t-il dans la tête d'une personne en apparence normale? Que se passe-t-il dans la tête d'un homme éduqué, instruit, intégré, croyant, religieux, pour pouvoir commettre des actes de cruauté pareils? Nous disons de barbarie. Pour les commettre ou y participer, au point que deux populations si différentes que les grands prêtres et les gardes se retrouvent ensemble à vociférer « Crucifie-le, crucifie-le !» Dimanche, dans la Passion selon Saint-Luc, nous entendions cet autre commentaire du peuple qui se tenait à regarder, les chefs qui se moquaient. « Il en a sauvé d'autres !» Qu'il se sauve lui-même s'il est élu, s'il est le Christ de Dieu. Que se passe-t-il dans la tête d'un être humain qui en avilit, qui en torture, qui détruit une personne? Nous savons maintenant un peu mieux ce qui se passe dans la tête d'une victime. Je voudrais reprendre ici une toute petite partie de l'exposé qu'une de nos paroissiennes, médecin spécialisée en traumatologie psychique, a fait fin janvier au Sénat, à la commission d'information sur les abus sexuels sur mineurs. Le traumatisme psychique d'un abus sexuel sur un enfant est comparable dans ses ravages, dans ses dommages, à celui d'une victime d'un attentat ou d'une catastrophe, avec cette différence que l'enfant qui est abusé est presque toujours ignoré de tous. Et nous savons désormais, grâce à l'imagerie cérébrale, grâce à la possibilité justement de pouvoir étudier ces lésions cérébrales, les expériences en laboratoire, ce qui se passe neurologiquement dans le cerveau. La synergie d'action entre le cœur, l'intelligence et la mémoire, plus exactement entre l'amygdale cérébrale qui est le siège des émotions, le cortex, le siège de la raison, et l'hippocampe, le siège de la mémoire, cette synergie d'action est détruite. Et le choc est tel que le souvenir de l'abus ne peut pas être enregistré par le cerveau au niveau de la mémoire. C'est ce qu'on appelle l'amnésie traumatique. Des jours, des mois, des années, voire des dizaines d'années après, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans après, la personne va soudainement revivre des émotions, des pensées, des sensations avec la même intensité que ce qu'elle a vécu au jour du choc, du drame, de l'abus. Et quand ça intervient dans l'enfance, la personne ne peut pas, adulte, attribuer à cet événement ce qu'elle vit, d'où la confusion, l'aggravation des symptômes. Et pour se protéger des horreurs qui l'envahissent sans possibilité de compréhension, la personne va réitérer ce qui lui a permis de survivre, ce qu'on appelle la dissociation, qui peut conduire à des actes agressifs vis-à-vis d'elle-même, conduite à risque, alcool, drogue, prostitution, automutilation, suicide, ou vis-à-vis des autres. Violence physique, verbale, mais aussi agression sexuelle. Combien de victimes faudra-t-il encore pour que nous prenions tous conscience des dégâts irréversibles des violences physiques, particulièrement des abus sexuels sur les enfants? Le crime contre l'humanité de Dieu, la mort du Christ sur la croix, approuvé, plébiscité par la foule, demandé par les chefs, se perpétue à travers l'histoire au sein de nos pays dits civilisés, sans l'excuse de la guerre. Et quelques prêtres ont été semblables à ceux de l'époque. Que se passe-t-il dans la tête d'un être humain qui s'abandonne à la barbarie? Combien de fois faudra-t-il encore entendre dire qu'on n'aurait jamais cru cela de lui, qu'il avait une apparence respectable, dévoué, voire même sacré, père de famille, instituteur, médecin, enseignant, prêtre. On n'aurait jamais cru cela de lui, et on n'a pas cru ce que l'enfant a dit. Et on n'a même pas vu que l'enfant n'était plus le même. Au soir de Pâques, nous entendrons le Christ ressuscité secouer ses disciples. Cœur sans intelligence, si lent à croire tout ce que les prophètes avaient annoncé. Puissions-nous ne jamais entendre le reproche inverse, ce que nous sommes chaque fois que nous regardons froidement la croix, intelligence sans cœur. Dans sa lettre d'exhortation, le Christ est vivant, qu'il a écrite à la suite du synode pour les jeunes, le pape François écrit ceci. Ne soyons pas une église insensible à ces drames de ces enfants jeunes. Ne nous y habituons jamais, car qui ne sait pas pleurer n'est pas mère, n'est pas maternelle. Nous voulons pleurer pour que la société aussi soit davantage mère, maternelle, pour qu'au lieu de tuer, elle apprenne à donner naissance, pour qu'elle soit porteuse de vie. Nous pleurons quand nous nous souvenons des jeunes qui sont déjà morts de la misère et de la violence. Et nous demandons à la société d'apprendre à être une mère solidaire. C'est une souffrance qui ne peut pas s'estomper, qui marche avec nous, parce que la réalité ne peut pas être cachée. Et le pire que nous puissions faire, c'est d'appliquer la recette de l'esprit du monde, qui consiste à anesthésier les jeunes avec d'autres nouvelles, d'autres distractions, d'autres banalités. Peut-être que nous avons une vie sans trop de besoins, et nous ne savons pas pleurer. Certaines réalités de la vie se voient seulement avec des yeux lavés par les larmes. Certaines réalités de la vie se voient seulement avec des yeux lavés par les larmes. J'invite, écrit le pape, j'invite chacun de vous à se demander, est-ce que j'ai appris à pleurer ? Est-ce que j'ai appris à pleurer quand je vois un enfant qui a faim? Un enfant drogué dans la rue? Un enfant sans maison? Un enfant abandonné? Un enfant abusé? Un enfant utilisé comme esclave par la société? Ou bien est-ce que mes pleurs sont des pleurs capricieux de celui qui pleure parce qu'il voudrait avoir quelque chose de plus? Essaye d'apprendre à pleurer pour ceux qui se trouvent dans une situation pire que la tienne. La miséricorde et la compassion se manifestent aussi par des pleurs. Si tu n'y parviens pas, prie le Seigneur pour qu'il t'accorde de verser des larmes pour la souffrance des autres. Quand tu sauras pleurer, alors tu seras capable de réaliser quelque chose du fond du cœur pour les autres.